Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans la vie de l'esprit. Aujourd'hui encore, nous allons converser, ou plutôt écouter, Catherine Despeux, sinologue, traductrice, spécialiste du bouddhisme chinois, le bouddhisme Chan, mais aussi du taoïsme. Et c'est du taoïsme que nous allons continuer de parler aujourd'hui. Le mois dernier, Catherine Despeux a tenté de nous faire comprendre ce qu'est la voie du Tao. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer d'apprendre sous sa douce férule. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent du taoïsme dans les arts traditionnels chinois. Est-ce qu'il y a une peinture taoïste? Et si oui, quelles sont ses lois? Quelles sont ses œuvres? Et quels sont ses objectifs? Est-ce qu'ils sont avant tout spirituels, initiatiques ou artistiques, ou les trois?
Alors, je dirais là aussi qu'il n'y a pas vraiment... On peut toujours trouver des taoïstes qui ont été des peintres. On peut trouver des peintres qui ont été influencés par la pensée taoïste, mais on peut pas dire qu'il y a un courant d'une peinture taoïste à proprement parler. Cela dit, c'est vrai que aussi bien les taoïstes que les lettrés ont un art de vivre et une façon de voir la nature qui a été traduite dans les peintures que l'on connaît et surtout les peintures que l'on apprécie beaucoup en Occident. Parce qu'on a l'habitude, quand on pense à la peinture chinoise, tout de suite de voir ces lavis, ces peintures d'encre ou les peintures qui sont plutôt esquissées, où les formes sont plus ou moins floues, disparaissent dans des nuages, des paysages qui inspirent la simplicité, la sérénité. Mais on oublie qu'à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la peinture très précieuse, très minutieuse, très fine, très détaillée, qui était aussi importante. Alors cette peinture que l'on pourrait penser taoïste, c'est une peinture qui est influencée à la fois par la pensée taoïste et par la pensée du bouddhisme Chan, qui se rejoignent dans cette idée du rapport de l'individu à la nature, d'une part, dans le fait que le monde, si je prends par exemple la peinture de paysage, le monde extérieur qui va être peint par le peintre est aussi un reflet de son monde intérieur, donc de son état d'esprit, qui va refléter donc cette simplicité, cette proximité de l'esprit avec le temps, donc avec quelque chose qui ne va pas avoir de forme précise. Et non seulement qui ne va pas avoir de forme précise, mais dans laquelle le vide va être aussi important que le plein. De même que l'invisible est aussi important, si ce n'est plus que le visible, eh bien, dans cette peinture, justement, on se rend compte que c'est le vide, c'est ce qui n'est pas, qui va faire la beauté de la peinture et qui va susciter, justement, cette stupéfaction devant quelque chose qui dépasse le simple effet sensoriel que va nous donner la peinture. Et c'est vrai aussi pour la calligraphie, par exemple. Dans une calligraphie, on va apprécier autant ce qui est entre les caractères, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, mais cette énergie qui, entre la fin d'un trait et le début d'un autre, existe et que l'on peut percevoir si le calligraphe a été capable, justement, de transposer dans son geste cette dynamique du chi, de cette force de vie et de l'état intérieur qu'il a voulu transcrire, qu'il a voulu inscrire dans la matière.
La calligraphie, justement, je voulais y venir. C'est quand même tout à fait particulier, puisque on fait finalement de l'écriture, tout simplement du simple fait d'écrire un art. Comment cela est-il possible? En quoi, finalement, le chinois considère-t-il que une calligraphie, c'est un art, en fait, une œuvre?
Eh bien, une calligraphie, c'est beaucoup plus qu'un art. Justement, en parlant de taoïsme, la calligraphie, ou tout ce qui est écrit, c'est une puissance. Quand un calligraphe écrit, et à ce moment-là, on va pouvoir revenir sur on pourrait dire la calligraphie taoïste, c'est-à-dire celle qui va être exécutée par un taoïste qui a développé en lui une certaine réalisation du Tao. Eh bien, le taoïste, quand il trace un trait de caractère, il met dans ce trait de caractère son énergie, sa puissance. Et il y a dans le taoïsme religieux ce que l'on appelle des talismans. Ce sont des écritures, on pourrait dire un peu magiques, qui se rapprochent des grimoires, mais qui sont en fait à base très souvent de caractères chinois, qui ont une signification, qui vont représenter soit un sens de caractère, soit des forces cosmiques. Par exemple, on va décider quelque chose qui ressemble au soleil, et ce dessin, ce caractère tracé, va comprendre la puissance du soleil. Ce sont des talismans qui vont donc être utilisés, des écritures qui vont être utilisées pour soigner, soit pour protéger, soit encore pour exorciser. Et c'est cette écriture de talisman qui, en fait, a donné naissance, enfin, qui a influencé l'apparition d'un style calligraphique particulier qu'on appelle le style en herbe, c'est-à-dire un style calligraphique dans lequel les caractères sont écrits rapidement et assez déformés, parce que le fait de vouloir transmettre l'énergie au texte qui va être écrit fait qu'on essaie de l'écrire avec un seul souffle, sans qu'il y ait interruption. Et donc, le tracé n'a plus besoin d'être un tracé figuratif, mais ce qui est plus important, ce sont les lignes de force qui vont être inscrites sur le papier. Et c'est un art donc, qui rentrait ensuite dans le monde laïque, que les lettrés et que les grands calligraphes, qui étaient beaucoup influencés, alors beaucoup par le bouddhisme chan, mais beaucoup par le taoïsme, c'est un art qu'ils ont développé aussi dans leur monde de lettrés.
Et pour le public, celui qui admire la calligraphie, qu'en attend-il? Est-ce qu'il en attend une émotion esthétique ou encore autre chose qui serait justement du domaine de la puissance dont vous nous avez parlé tout à l'heure?
La personne qui ne connaît pas la calligraphie, déjà, elle va avoir du mal à
Oui.
comprendre et à différencier une bonne calligraphie d'une mauvaise. À quoi est-ce qu'on reconnaissait une bonne calligraphie, on reconnaît une bonne calligraphie? Eh bien, justement, à ce critère. Est-ce qu'il y a une puissance? Est-ce qu'il y a une continuité? Et au fond, je crois que c'est, si on n'a jamais tracé un caractère avec un pinceau, on peut difficilement comprendre une calligraphie, la beauté d'une calligraphie qui n'est pas uniquement esthétique. C'est-à-dire, c'est pas du tout la beauté au sens où on l'entend qui va faire une belle calligraphie, c'est autre chose que l'on va chercher. Et on va chercher cette dynamique, justement. Il y a des histoires aussi qui sont les histoires taoïstes de peintres ou de calligraphes, qui, par exemple, un peintre qui était merveilleux et qui pouvait peindre justement les démons et l'invisible, et il avait peint sur les murs d'un temple un dragon, et l'empereur lui dit: oui, mais votre dragon, vous n'avez pas peint l'œil du dragon. Et le peintre lui a dit: j'ai pas peint l'œil parce que selon le taoïsme, dans l'œil se trouve, on pourrait dire, l'âme, la puissance divine de l'individu ou de l'être. Et le peintre lui dit: si je peins l'œil, je vais donner vie à mon dragon. L'empereur lui demande malgré tout de peindre l'œil, ce que fait le peintre, et aussitôt le dragon s'envole et part de la fresque. Donc c'est une légende, mais qui traduit bien cette idée que la matière aussi a une force, a une puissance. Et c'est d'ailleurs quelque chose, ce principe est utilisé dans les rituels taoïstes, puisque quand on fait une représentation d'une divinité avec une statue, il y a tout un rituel qui consiste justement à pointer avec un pinceau ses yeux pour lui donner vie. Une statue est aussi, on pourrait dire, un support de la puissance divine, de la puissance du Tao, pardon.
Alors après la peinture et la calligraphie, la poésie, l'accord naturel au cours des choses, notion éminemment taoïste, irrigue la merveilleuse poésie des dynasties Tang et Song. Alors Tang c'est entre 618 et 907 et Song entre 960 et 1279. Alors on va citer Lipo, Wang Wei, Han Shan et tant d'autres qui ont porté au sommet cette poésie d'une remarquable simplicité, ce qui ne veut pas dire qu'elle est facile, elle est simple, mais on peut très bien passer à côté du sens profond de ces œuvres étonnantes. Hein.
Oui, bien sûr, mais là encore, comme pour la peinture, on connaît, parce que ça nous est plus accessible, les poésies simples, mais il y a à côté de cela aussi des poésies très sophistiquées, oui. Qu'on connaît moins. Alors dans ces poésies qui nous touchent beaucoup et qui nous sont accessibles, eh bien il y en a beaucoup qui sont en fait aussi influencées par le bouddhisme Chan. Le taoïsme et le bouddhisme Chan au fond qui sont assez proches hein, quand même lorsqu'il s'agit pas de religion mais justement de toute cette philosophie et cette vision de la vie. Eh bien, elle a influencé la poésie beaucoup plus tôt que sous les Tang. Déjà, sous les six dynasties, c'est-à-dire entre le 3e et 6e siècle, vous avez de merveilleux poètes qui ont été très, très influencés par le taoïsme. Et je vous en citerai plusieurs qui, moi, me touchent personnellement et qui sont certainement parmi les plus beaux poètes. Enfin, en tout cas, on trouve des poésies merveilleuses. Donc, sous les six dynasties, il y en a un qui s'appelle Tao Yuanming.
Ah oui, oui, oui.
Tao Yuanming, dont les poésies ont été traduites, d'ailleurs, je crois, dans l'édition Les Belles Lettres récemment. Donc, c'est tout à fait accessible. Qui a écrit des poèmes en prose et des poésies. Alors, où évidemment, le thème de la nature est très présent parce que cette nature nous aide le taoïste, aide le lettré qui est attiré par cette vision à trouver la simplicité, la paix de l'esprit, le calme, la pureté, donc le bruit d'une cascade, le bruit d'un ruisseau, le bruit du vent dans les pins, la lumière sur les montagnes, tout cela, les arbres, toute la végétation, une petite chaumière perdue dans ces chemins sur lesquels on chemine tranquillement, un petit peu en retrait du monde et des turbulences du monde, eh bien tout ça évidemment a été traduit dans cette poésie qui, dans le style aussi, cherche la simplicité et l'économie, on pourrait dire, de mots. Donc c'est aussi la difficulté d'approche de ces poésies, c'est que eh bien il faut petit à petit comprendre ce qui n'est pas dit. Aye. Là encore, le plus important, c'est le lien entre les choses, c'est le vide. C'est ce qui n'est pas dit, mais qui va être suggéré par le rapprochement de deux ou trois caractères, qui va suggérer non pas un message linéaire, quelque chose de rationnel, mais qui va suggérer une émotion, qui va suggérer, qui va permettre à l'esprit d'entrer dans un état justement de paix, de joie. Et tout cela, eh bien, c'est ce qui est recherché aussi dans la poésie. Alors les Tang, évidemment, ben Wang Wei, oui. Wang Wei, lui, est beaucoup plus influencé par le bouddhisme Chan, oui. Mais Li Bai ou Li Po était taoïste. Oui. Il a été même taoïste, il a eu des maîtres taoïstes, et c'est un grand, grand poète, je dirais pas le plus grand, parce que moi j'aime beaucoup, Tao Yuanming, j'aime beaucoup d'autres poètes des Song. Sous les Song, vous avez donc au 11e siècle, vous avez Su Tongpo, Fouché, qui est aussi très connu, et ce sont vraiment des œuvres que l'on peut lire et relire et relire. Et à chaque fois que je les relis, par exemple, je trouve un sens différent ou une émotion différente.
Ah, et vous, évidemment, et vous les lisez en chinois, évidemment, vous.
Alors, évidemment, on perd les trois quarts de l'intérêt de la poésie avec la traduction. C'est intraduisible. On perd le côté visuel, comme François de Chang l'a bien écrit, mais on perd aussi le côté auditif, parce que la poésie se chantait presque. C'est entre le chant et la récitation, la psalmodie, et tout ça. Alors, l'idéal, c'est d'aller dans un coin de la nature merveilleux avec un bol de thé, d'un petit ruisseau et de déclamer des poésies avec des amis intimes, et on partage un temps d'éternité, parce que là on oublie tout, on est pris dans cette atmosphère qui aide à comprendre un peu, en tout cas se rapprocher du temps, cette chose merveilleuse qu'est la vie, non pas la vie opposée à la mort, mais la vie en tant que chose merveilleuse. Le premier chapitre de Lao Tzu dit Miao. Miao, c'est ce qui est merveilleux, ce qui est indicible, ce qui est prodigieux. Et le mystère.
Le mystère. Alors, vous parlez de thé, mais il est souvent question de vin aussi et d'ivresse. Moi, je me posais la question, savoir si réellement ces poètes buvaient autant qu'ils le disent dans les poèmes, ou est-ce que c'est une figure de style encore là ? Est-ce qu'il s'agit d'une ivresse spirituelle ?
Ah non, il buvait vraiment. Alors c'était pas du vin, c'était à l'époque c'était, on peut pas dire de la cervoise, c'est-à-dire c'était un vin de céréales, autrement dit une boisson fermentée faite à base de céréales différentes. Donc c'était pas très très fort en degré. C'était pas encore l'alcool avec distillation, tel qu'on verra plus tard à partir des Song. Là, oui, c'est beaucoup plus l'alcool qui sera bu, mais avant ça, c'est la cervoise. Donc, ils pouvaient en boire beaucoup, mais oui, c'était une ivresse, ils buvaient beaucoup. il y a même des recettes qui sont données pour apprendre à ne pas être malade d'ivresse, mais à atteindre en fait une douce ivresse. Donc l'ivresse est important, est importante, oui.
Alors, j'aimerais à présent, pour la dernière partie de cette émission, qu'on évoque le taoïsme dans les arts martiaux chinois, ces arts martiaux si populaires en Occident depuis les années 70 et l'apparition de Bruce Lee sur les écrans du monde entier. Je m'en souviens encore, ça nous avait émerveillés. Or, les premiers arts martiaux chinois ont été codifiés, je me suis aperçu en ayant fouillé sur Google, dès le 1er siècle de notre ère, si j'en crois à Wikipédia. C'est une vieille histoire, les arts martiaux en Chine.
Ah ben, on pourrait remonter encore plus loin. Parce que déjà sous les Zhou, c'est-à-dire au 6e, 7e siècle avant notre ère, les dirigeants des différents royaumes ou après de l'Empire considéraient que pour bien gouverner un pays et pour le maintenir dans la paix, il fallait user à la fois des forces civiles et des forces militaires. Les forces militaires, les forces martiales n'étaient pas là pour attaquer, mais pour essentiellement pour défendre, pour protéger. Et c'est toujours cet équilibre entre le civil et le martial qui permettait justement d'éviter que les guerres amènent au désastre, bien que elles aient été continuellement présentes dans l'histoire de Chine. Il faut pas trop idéaliser non plus. Mais il y avait en tout cas cette attention qui était portée à la fois au martial et au civil. Et donc, c'était autrefois des armées avec des armures, des cavaliers, des lances, toutes sortes d'armes. On en a retrouvé de très ancienne, mais aussi le combat à main nue. Alors c'est ça qui va donner le développement des arts martiaux que l'on connaît ici et qui remonte effectivement, d'après ce que l'on sait, mais ça remonte certainement beaucoup plus loin, au premier siècle de notre ère. Et ce combat à main nue n'a pas cessé d'être utilisé, notamment pour défendre les territoires.
Ouais.
Il y avait toujours des milices dans les villages qui étaient censées protéger le village contre les bandits, contre les pillards, contre les luttes intestines qui intervenaient lorsqu'il y avait des rivalités entre familles. Ou qui après, ce sont des gens qui sont intervenus pour escorter les caravanes de marchands ou pour qui pouvaient être au service des grandes familles qui avaient donc des centaines de serviteurs de grandes maisons et qui devaient là aussi être protégés de toute l'avidité des personnes extérieures. Donc il y a toujours eu une formation martiale à main nue ou avec des armes évidemment. Donc soit au niveau local, soit au niveau national avec les armées, toutes les défenses militaires du pays, de l'État.
Ouais. Alors il nous reste 5 petites minutes, hélas. Je voudrais qu'on parle des arts martiaux donc, qui relèvent donc, du combat plutôt à main nue. Il y a ce qu'on appelle les styles externes, le wushu, kung fu, etc., les styles internes. Or vous avez publié il y a déjà quelques années Tai Chi Quan, art martial technique de longue vie, c'est chez Guy Trédaniel. Vous connaissez donc parfaitement le sujet. Le Tai Chi dans l'esprit des gens relève plutôt de la gymnastique finalement, or c'est bel et bien un art martial.
Absolument, c'est un art martial et un art de longue vie. Alors cet art martial est né en fait justement dans ces milieux de milices paysannes, mais ces milices paysannes avaient aussi un rôle religieux puisque très souvent c'est elles qui intervenaient dans les rituels taoïstes, notamment les rituels exorcistes, pour combattre les démons, chasser le mal, soit du corps d'un individu, soit d'un village ou d'une région. Donc, ils étaient à la fois, ils exerçaient leur art martial à la fois contre les forces invisibles dans le cadre religieux, et à la fois de manière plus concrète à l'extérieur pour protéger les villages. Et ce développement donc du Tai Chuan est devenu un art interne. Par opposition, en fait, c'est plus une question politique que réelle, cette distinction entre art externe et art interne, parce que un peu avant l'apparition du Tai Chi Chuan, qui date en fait du 16e-17e siècle, il y a eu les arts martiaux développés dans le contexte bouddhique par le temple Shaolin.
Oui.
Voilà, là aussi, c'était le temple Shaolin combattait non seulement pour défendre le territoire, mais a parfois été au service de l'État et a aidé l'empereur à se défendre contre les invasions extérieures. Donc, il y a eu un petit peu cette rivalité aussi entre bouddhistes et taoïstes, mais on peut dire que l'un comme l'autre, que ce soit dans le Shaolin ou dans le Tai Chi Chuan et les arts internes comme le Sini Chuan ou le Bagua Chuan, il y a autant de travail intérieur que de travail extérieur. On peut dire néanmoins que dans les arts internes plus influencés par le taoïsme, l'idée de ne pas utiliser trop la force musculaire, mais de chercher plutôt une force énergétique qui vient de la souplesse. Donc ce ne sont pas les muscles ni la force des muscles qui va être prédominante, mais on va dire la force de la souplesse des tendons, ça va être plus la façon adéquate d'utiliser une force dans un contexte pour non pas s'opposer à la force de l'ennemi, mais pour au contraire utiliser la force de l'ennemi et on dit la faire perdre dans le vide. C'est-à-dire que au lieu de faire face à l'ennemi, on laisse sa force venir et on se retire au dernier moment, ce qui fait que la force de l'ennemi tombe dans le vide. Donc c'est cette idée, c'est tout un idéal de la martialité, qui considère que deux personnes face à face ne sont pas des ennemis, mais qu'ils forment là aussi un cercle, et que si on utilise la tangente du cercle, eh bien, il n'y a pas confrontation blessante, mais au contraire, utilisation de la force de l'autre pour soit l'intégrer à sa propre force, soit au contraire faire qu'elle soit inefficace. Ouais.
Il nous reste une petite minute. J'aurais voulu peut-être terminer cette émission en évoquant ce succès qu'a obtenu le taoïsme et continue d'obtenir le taoïsme en Occident avec des formes un peu abattardies du taoïsme. Il faut se méfier finalement de ce que les Occidentaux ont pu faire du taoïsme ces dernières années, non ?
Absolument. J'ai de plus en plus de collègues qui travaillent justement sur cet aspect de l'internationalisation du taoïsme et de tout l'imaginaire que développent les Occidentaux autour de cela, qui est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec ce qu'est vraiment le taoïsme. Ah oui. Le taoïsme, c'est vraiment une voie spirituelle très exigeante, hein. On parle de non-agir dans le taoïsme, il ne s'agit pas de ne rien faire ou de laisser faire ou de se laisser aller, au contraire, c'est une voie très 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 exigeante qui demande l'harmonisation, qui demande l'attention, qui demande de contempler, de comprendre les choses, d'avoir une connaissance de soi et du monde. Et je pense à des dérives, par exemple, on parle de sexualité taoïste, c'est n'importe quoi. Que les gens vivent leur sexualité comme ils veulent, mais ça n'a rien à voir. Cette sexualité dite taoïste n'a rien à voir avec la façon dont les taoïstes ont compris et ont accordé de l'importance à la force de vie qui s'exprime entre autres dans la sexualité, mais qui ne doit pas être confondue et réduite à la sexualité. Il y a aussi d'autres dérives dans les gens qui imaginent faire circuler du chi dans tel ou tel endroit, alors que ça reste imaginaire et c'est pas du tout l'approche taoïste. Enfin, il y aurait beaucoup à dire.
Beaucoup à dire, oui.
Et je dirais au fond que les gens lisent le livre de la voie et de la vertu. À chaque ligne, il y a une leçon, quelque chose à comprendre de l'esprit du Tao, et ça se lit pas de bout en bout, mais on lit quelques lignes, on médite dessus, on réfléchit dessus, et petit à petit, en lisant le livre de la voie et de la vertu, en cherchant le calme, la simplicité, la sérénité, on se rapprochera plus de ce qu'est le taoïsme.
Voilà, le Tao Te Ching ou le livre de la contemplation intérieure que vous avez donc traduit et qui, je le rappelle, est disponible chez Rivage Poche. Et puis, si on s'intéresse au Tai Chi Chuan, on peut lire votre Tai Chi Quan, art martial, technique de longue vie, c'est chez Guy Trédaniel. Catherine Despeux, encore une fois, un grand merci à vous. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez bien évidemment, je le rappelle à chaque fois, réécouter cette émission La vie de l'esprit avec Catherine Despeux sur le taoïsme, sur notre site www.radiograndciel.fr. À très bientôt.